Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui fait un relaunch. Ce relaunch, parce qu'on reprend au numéro 1 à l'ancienne. Peut-être que dans le prochain numéro, on reprendra la numérotation originale, on verra.
Ou peut-être qu'on va laisser les deux numérotations en alternance.
En alternance, ouais.
Parce qu'en fait, pour les nouveaux, comme ça, ils disent que c'est le relaunch, ils commencent au numéro 1, et pour les autres, ils ne sont pas perdus.
Donc, beaucoup de nouvelles choses pour cet épisode. Ça va commencer tout simplement par l'apparence de l'article sur le blog. Si vous passez par le blog pour nous écouter, vous verrez que ça a un petit peu changé.
Ouais, ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Hein. J'espère que ça va vous plaire, parce que j'en ai vraiment, 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 vraiment chié. Quoi.
Ouais, c'est vrai. Code HTML et tout.
J'ai passé toutes mes vacances de la Toussaint dessus.
Ouais, t'es un malade. Donc, on espère que ce sera un peu plus lisible et un peu plus agréable à l'œil et qu'il y aura moins de flash et que les pages seront plus légères aussi. Et puis, on commence aussi avec une rubrique news et en plus, on a des jingles. Alors, en fait, on est censé avoir des jingles, sauf que voilà, pendant que Thio bossait sur le site, moi, j'en ai pas foutu une.
Ouais, il a pris des vacances, mais un truc terrible.
Voilà, et j'ai pas eu le temps de faire tous ces jingles. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, nous vous ferons les jingles à la bouche. Nous commençons dès maintenant en accueillant Merton qui viendra tous les mois pour nous parler des news avec notre rubrique sur les news.
Yeah. Et voici les news.
Salut Merton, comment vas-tu?
Ben salut à tous, ça va plutôt bien. Puis je suis bien content d'être là pour animer un peu cette rubrique actualité qui est nouvelle, ouais, sur le podcast.
Oui, voilà, en fait, tu dans la nouvelle formule du podcast, tu vas un peu inaugurer. D'ailleurs, la première news, je vais même te la voler, parce qu'en fait, on va parler des 2 ans du podcast, parce que nous fêtons à la mi-décembre les 2 ans du 1A Club.
Voilà, non mais j'arrive, je me fais déjà spoiler, quoi.
Enfin, ouais, t'as vu un peu comme c'est classe. Et donc, chers auditeurs, chers poditeurs, comme on dit dans le monde du podcast, nous adorerions faire une super émission avec un live en direct, avec intervention des auditeurs. Alors, il y a tous les problèmes techniques à régler.
Et il y pense beaucoup.
Hein. J'y pense beaucoup. Je suis en train de réfléchir au nombre d'ordinateurs, de trucs que je dois brancher dans tous les sens.
On a eu 3 heures de route qui nous ont aidés à bien réfléchir à ça, et il y pense beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Voilà, pour pouvoir donc faire un live où les poditeurs interviendraient pour nous parler des trucs qu'on a ratés cette année, parce qu'on lit beaucoup de BD, vous avez peut-être remarqué, mais en fait on peut pas tout lire parce qu'il y a tellement de sorties et il y a plein de trucs géniaux qu'on a ratés. Par exemple, j'adorerais que quelqu'un vienne me parler d'Alter Ego, dont j'ai entendu beaucoup de bien et que je n'ai qu'à peine survolé vaguement. Donc, chers auditeurs, si vous voulez intervenir dans l'émission, ça nous ferait grandement plaisir. Il vous suffit pour ça tout simplement d'aller sur le site lavoixdesbulles.fr, d'aller sur la page contact, ça m'envoie un mail directement et ensuite on continue à en discuter par mail pour savoir de quoi vous voulez parler. Ça nous ferait vachement plaisir. Et donc nous allons pouvoir passer à la nouvelle news.
Ça fait très Canal Plus comme ça.
Ouais, hein. Ça fait très Canal, mais tu verras quand on aura des super bruitages, ce sera mieux.
Ancienne version quand même de Canal.
Ouais, c'est
là c'est l'ancienne.
Mais c'est de l'impro, je sais pas, ça va être la pensée, c'était vrillé dans mon cerveau. Donc parlons un peu de la news suivante, Merton, de quoi vas-tu donc nous parler?
Ah bah, je pense que la première chose dont on doit parler, c'est ce qui s'est passé récemment au festival de Montreuil, parce que vraiment ça m'a un peu énervé et du coup j'ai cru bon d'envoyer un grand message, un grand coup de gueule sur BDO, et je suis assez content, ça a bien réagi. On va en parler. En fait, c'est le festival de Montreuil qui a décidé comme ça du jour au lendemain que les jeunes artistes qui voulaient avoir la chance de pouvoir parler à des directeurs artistiques et peut-être se faire éditer du coup un jour, eh bien cette année ils devraient payer, donner de l'argent, et en plus ils devaient avoir le bon diplôme qui va bien dans le domaine de l'illustration.
C'est vrai, dans l'illustration il n'y a pas d'autodidacte, ça n'existe pas.
C'est un peu ce qu'on dit la plupart des auteurs, parce que beaucoup d'auteurs se sont aussi manifestés, ils sont allés de leur coup de gueule, c'est-à-dire que on sait que les diplômes dans l'illustration et la BD, il y en a beaucoup qui valent pas forcément grand-chose. Il y en a quelques-uns qui sont très réputés, mais il y a quand même beaucoup d'écoles qui font un peu tout et n'importe quoi et qui se font pas mal d'argent sur le dos des jeunes auteurs.
Puis c'est pas parce qu'on sort avec un diplôme qu'on sera un jeune illustrateur qui travaillera dedans non
D'accord.
plus, et réciproquement.
Parce qu'en plus, il fallait avoir un diplôme en rapport, parce que si par exemple tu avais fait bio
Ah non,
ou
tu
lettres,
passais pas.
tu passais pas, quoi.
Non, c'est
Tu
ça.
pouvais pas, c'est-à-dire
Ah
qu'il fallait que
ouais!
tu envoies en gros, dire voilà, je suis jeune diplômé et je suis d'accord pour payer entre 10 et 30 euros pour avoir la chance, s'il vous plaît, de parler à un directeur artistique.
Trois directeurs artistiques, c'était.
Ouais, c'était 3, ouais, pour
Trois, quand
10
même,
euros,
attends.
c'est 3 directeurs artistiques, ouais. Non, c'était quand même
C'est
pas mal.
presque qu'on sait du proxénétisme, en fait.
Ouais. Donc c'est Tanks, hein, qui a beaucoup réagi là-dessus, qui a été la plus
Ouais.
virulente sur le sujet. Donc, de toute
Bah,
façon,
ça a
c'est
été la
une.
première à dégainer, on va dire.
Bah,
Et
c'est une des blogueuses les plus virulentes d'un point de vue vie sociale du dessinateur.
Mais elle a souvent raison.
Oui,
Enfin,
bah
faut
oui, je
quand
suis
même
bien d'accord
dire.
aussi. Après, c'est aussi une question de point de vue. Je sais pas si tu as vu ce qu'a fait Laurel sur son blog quand elle en parlait. Elle est aux États-Unis en ce moment, enfin
Ouais,
au
j'ai vu
moment où on
ça, ouais.
enregistre, où en gros les informaticiens disaient quoi à Ikebos 10 euros, mais c'est que dalle. Nous, il faut qu'on paye au moins 1000 euros pour rencontrer des directeurs artistiques dans le jeu vidéo.
Alors, c'est un peu différent, c'est-à-dire que là, c'est l'entrée dans les salons qui coûte cet argent-là. C'est-à-dire que là, en plus, il fallait payer l'entrée pour rentrer au Festival de Montreuil.
D'accord.
Enfin, il faut voir ça aussi. C'est vrai que les salons très spécialisés coûtent toujours très cher, mais ça existe je dirais, en France aussi. C'est-à-dire que si tu veux aller dans des salons très spé sur la communication, sur le jeu vidéo, etc., les entrées coûtent quand même, mine de rien, assez cher si tu veux y aller. Mais une fois que tu es sur le salon, t'as pas besoin de repayer en plus pour rencontrer les gens. Là, non seulement il fallait payer l'entrée au salon, mais il fallait payer en plus un droit pour présenter son book. C'est-à-dire que le jeune auteur qui rentrait avec son book sur le salon n'avait pas le droit de le présenter parce qu'il fallait déjà être sur la liste avant, enfin, pour avoir ce droit-là, quoi.
Et
Et
alors, vas-y, pardon.
j'ai tendu la main, je te faisais des signes
Ah,
et tout
d'accord,
pour
bah,
dire
c'est
je voulais
lever la main.
être.
T'es un style, c'est pas tendre la main, c'est lever la main.
Oui,
Tendre la
je
main,
suis
c'est un geste qui fait un peu fasciste.
dans
Donc,
ton dos, tu veux que je fasse comment?
d'accord, vas-y.
Bon,
Enfin, en tout bien, tout honneur.
ouais, voilà. Juste une question. Les 10 ou 20 euros, ils ont dit que ça servait à quoi, en fait, exactement?
En fait, ils n'ont pas vraiment dit à quoi ça servait. Leur première réaction était de dire non, mais ils payent 10 euros, mais quand même, on leur paye un café. C'est la seule chose qui a été
Je crois qu'il est
la
moins cher sur
réaction
les champs.
officielle
Sur
en
les champs, même
disant.
la tour Eiffel doit être moins cher. Ouais.
Non, mais en fait, ils disaient non, mais ils payent 10 euros, mais quand même, ils sont dans une salle où il y aura des magazines et le café. Enfin, c'est pas si cher que ça. C'est pas grand-chose, quoi. Donc, ce qui n'a pas été bien pris par à peu près tout le monde. Enfin, je veux dire, c'était un peu du foutage de gueule. Et je pense qu'ils ont pas très bien su comment gérer cette crise parce que c'est allé très vite. Ça, c'est aussi la force des nouveaux médias. C'est allé très très vite.
Et là, c'est
Et
surtout un gros problème de com, en fait. Ils ont super mal géré la com
Mais on
après
est,
le derrière, quoi.
mais ça on est d'accord. Je pense qu'ils n'ont pas du tout su comment gérer. Et je vais même jusqu'à dire que je pense qu'ils étaient convaincus que leur nouvelle formule, comme ils l'ont appelée, ce passe jeune talent, était une bonne idée et une bonne initiative parce que là, le problème n'est pas réglé. C'est-à-dire qu'on va avoir des dizaines et des centaines de jeunes auteurs qui vont arriver et on ne peut pas dire que les rencontres avec les directeurs artistiques aujourd'hui sur ce genre de salon sont idéales, en fait. Enfin, en
Alors,
tout
ce qu'il
cas, à
faut savoir
Montreuil.
aussi, c'est que Montreuil, c'est un gros salon pour tout ce qui est illustration, illustration jeunesse,
C'est l'un des plus grands de France, ouais.
et qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes artistes bah, qui vont là-bas pour rencontrer leur premier contrat avec tous les éditeurs jeunesse. Je pense à Bayard. Enfin, je pense à Bayard. Je sais pas pourquoi Bayard. Il y en a d'autres, toi, qui est dans
Il y en
l'éditeur
a
jeunesse.
plein.
Il y en a un paquet, mais Bayard, je sais qu'ils recrutent beaucoup parce qu'ils ont du
Ouais.
magazine derrière aussi.
Bah, Gallimard aussi, enfin,
Ouais,
Gallimard
Gallimard,
Jeunesse,
ouais.
c'est assez gros. Enfin, il y a les éditions, enfin, il y a Milan aussi qui fait pas mal de choses. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'éditeurs, aussi bien dans le livre illustré que dans la bande dessinée. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est idéal non plus. Hein. Enfin, au moins, ils ont essayé d'innover, mais c'était clairement dans le mauvais sens parce que c'était une sélection par l'argent. C'est déjà
C'était
difficile
très
d'aller.
maladroit, ouais.
C'est ça, c'est ça. Je pense pas qu'ils visaient à mal, mais ça prouve quand même qu'ils connaissent vraiment pas très bien comment vivent les jeunes auteurs aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est peut-être un peu triste quand même.
Et puis les jeunes auteurs, c'est des gauchistes, ils font que râler.
Gaucher?
Ouais, bien sûr, c'est
Hein?
exactement ça. Bah, en même temps, enfin, quand on voit même comment vivent certains auteurs
Oui.
qui bossent vraiment, enfin, qui sont plus forcément des jeunes auteurs, on se dit que les jeunes auteurs, ils doivent galérer puissance 1000, quoi. Donc, forcément, payer 10 euros en plus, parce qu'il faut y aller à Montreuil, enfin, il faut y aller, il faut se loger sur place, il faut payer le salon, enfin, c'est déjà pas mal de frais pour les jeunes auteurs qui veulent juste un travail, en fait, hein. Parce que c'est quand même comme si on disait « Bonjour, bienvenue à Pôle emploi, vous voulez aller bosser dans la sidérurgie ? Très bien, c'est 50 euros pour voir le mec des RH, quoi. » Enfin, c'est exactement le même type de réflexion.
Ok, est-ce que ça a été résolu d'une façon ou d'une autre, ou est-ce que le problème est resté vraiment dans le vague, en plan
Non, en fait, pour le moment, ils ont dit puisque c'est comme ça, on revient à ce qu'on a fait l'année dernière, mais vraiment, c'est nul. Enfin, une réaction qui est pas vraiment, qui est
ouais, ils ont
assez
été vexés,
cliché.
Peut-être. Ils ont été vexés, quoi. Genre, ils pensaient avoir une bonne idée.
Voilà. Alors, on peut voir plusieurs choses, c'est-à-dire qu'ils ont répondu de manière officielle uniquement sur leur page Facebook, et tous les gens qui leur avaient envoyé des mails, etc., c'est resté lettre morte. Complètement, mais en tout cas sur Facebook ils ont dit vous l'avez voulu, puisque c'est comme ça on fait comme l'an dernier, et l'an dernier c'était nul. Mais comme ils ont changé trois fois en trois semaines leur d'idée sur ce pass jeune talent, je pense que faut quand même rester un peu vigilant sur la prochaine idée qui peut sortir un peu n'importe quand.
Ok, et ben on va passer à la prochaine news. Il était mieux celui-là. Hein.
Ah, il est pas mal celui-là.
C'était un mélange entre Canal+ et le retour du Jedi, non ?
Ouais, je sais pas. On va en faire plein des cools. Alors, nouvelle suivante. Manolo Sanctis qui change de direction.
Complètement. Alors là, et en plus, c'est arrivé comme ça. On n'était pas du tout préparé, mais Manolo Sanctis a décidé d'arrêter les éditions papier. Il n'y aura plus de nouveautés en librairie chez Manolo. Ils ont décidé de se recentrer sur leur plateforme web, qui était leur cœur de métier à la base, hein, parce que c'est vrai que le début du projet Manolo, c'était quand même justement de dire les jeunes auteurs viennent sur la plateforme et les meilleurs peuvent être édités derrière en papier. Mais cette fois, ce sera plus possible d'être édité chez Manolo en papier, même si on est très aimé sur leur plateforme web.
Ouais, enfin, ça faisait un moment que les gens avaient commencé un petit peu à râler en disant que les gens aimés sur la plateforme étaient plus trop sélectionnés, que c'était plus des gens en amont qui publiaient sur la plateforme parce qu'ils étaient sélectionnés pour être édités.
C'est ça. Enfin, mais en même temps,
ils étaient plus devenus un vrai éditeur qu'un découvreur de talent, dans le sens ils utilisaient plus tant que ça leur plateforme pour découvrir les talents. C'est l'impression que ça donnait, en tout cas.
C'est un peu ça, mais en même temps on peut aussi le comprendre, parce que le milieu de l'édition aujourd'hui, c'est faut être un peu fou, hein, pour se lancer dans l'édition de bande dessinée quand on connaît un peu le marché, et du coup il fallait quand même avoir des titres qui étaient sûrs d'être un peu vendus. Et d'ailleurs ils le disent très bien dans leur communiqué, l'édition papier était pas du tout rentable et ils n'arrivaient pas à gagner de l'argent sur ce format là quoi.
Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de sortir peut-être trop de titres? Parce qu'ils avaient un gros planning quand même pour une maison d'édition qui débutait.
Ça, on est d'accord. Et puis c'est vrai qu'ils faisaient des éditions qui étaient toujours très très chiadées, très très jolies. Donc peut-être que oui, il y a eu un peu trop d'éditions en même temps. Ça, je sais pas trop. Mais en même temps, comme ils ont une plateforme avec plus de 3 millions de vues, enfin c'est assez énorme, hein, leur plateforme web. Il faut suivre derrière, parce qu'il y a quand même des gens qui attendent au tournant que déjà que leur BD soit éditée. Et il y a des lecteurs qui veulent voir tel ou tel BD chez leur libraire, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez difficile à tenir d'un côté et de l'autre, quoi.
Alors là, apparemment, ils vont se recentrer vers l'auto-édition, c'est-à-dire permettre aux gens d'utiliser la plateforme pour s'éditer eux-mêmes et avec la distribution derrière.
Ah, voilà, alors c'est le gros projet qu'ils ont pour 2012, parce que Manolo va quand même continuer, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'en termes de découvreurs de talent, ils sont quand même plutôt bon. Oui. Et donc voilà, ils nous ont, enfin dans le communiqué il y a juste écrit que cette nouvelle plateforme permettra d'accéder à une solution de fabrication et de distribution des livres aussi bien papier que sur format numérique, tablette, smartphone, enfin tout le tralala qu'on a aujourd'hui et qu'on trimballe un peu avec nous partout.
Bah, c'est plutôt une bonne chose.
Voilà, c'est-à-dire que moi, j'attends quand même avec impatience de voir bah, comment ça va évoluer, quoi. Parce que bon, même si on n'a plus les livres papier, ça reste des BD de qualité. Donc moi, je suis assez impatient de voir ce qu'ils nous réservent pour 2012. Et c'est vrai qu'ils avaient, enfin, en deux ans et demi, ils avaient quand même sorti 34 parutions. Donc c'était un rythme assez effréné, c'était ouais deux par mois quoi.
Oui, c'est assez
donc,
violent quoi pour un éditeur qui débute quoi. Il me semble que Ankama avait commencé plus light hein.
Ouais, enfin Ankama c'est encore différent.
Oui, mais ils ont une grosse machine, ils avaient une grosse machine commerciale derrière en plus, mais ils ont commencé plus light.
C'est ça, exactement. Et là, en 18 mois, ils avaient fait 34 parutions. Voilà. Donc, mais on a quand même hâte de voir ce que ça va donner, parce que ça permet à des jeunes talents de s'auto-éditer, d'avoir quand même un réseau de distributeurs derrière. Bon, après, il faut voir comment tout ça va suivre aussi, parce que s'ils n'ont plus le même volume, la distribution sera peut-être un peu plus compliquée derrière aussi, quoi. C'est toujours le problème dans l'édition.
Urban Comics, hein, le repreneur du catalogue DC Comics, qui était chez Panini jusqu'ici et qui est en fait Dargo, a annoncé son planning.
Alors, enfin,
je trouve même que c'est très très tôt. Ils ont été assez rapides en fin de compte hein, pour l'annoncer leur planning. On l'attendait. Alors ça donnait pas mal de réponses sur ce qu'ils allaient faire, mais ça a encore laissé beaucoup d'interrogations, principalement du côté de chez Vertigo. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce planning ?
Bah écoute, moi en fait j'ai surtout déjà été épaté du fait qu'ils ont immédiatement envahi, avant même d'être lancés, ils ont envahi tous les réseaux sociaux d'un coup en fait, et ils ont commencé une promotion assez large sur le web. Après sur le catalogue en lui-même, bah, je dirais que c'était quand même les titres qui étaient un peu les plus attendus, et il n'y a pas eu de grosses surprises en soi. Ils dévoilent doucement.
On commence avec une réédition de Watchmen pour changer.
Voilà. Ouais, mais c'est ce qui marche.
Une attaque forte. Hein.
Voilà. C'est ça.
Ils prennent pas trop de risques, quoi.
C'est ça, c'est ce qui marche.
35€ les 464 pages.
Ouais.
Avec la traduction en plus de Jean-Patrick Manchette, c'est-à-dire la précédente traduction, celle que les gens préféraient à celle de Panini.
Ben, là-dessus, enfin, je pense que c'est assez logique en fait. Ils vont d'abord capitaliser sur ce qui marche quoi, avec un gros Watchmen, un gros.
Ils ont dû racheter la traduction à Del Sol.
Oui, forcément. Bah ouais. Ça c'est normal.
Mm-hmm. Mais voilà, ils commencent ça bon pour le 24 janvier. Mais le 24 janvier, mais qu'est-ce qui s'approche du 24 janvier? Mais que préparerait-il par hasard avec ce genre de sortie? Voyons voir. Une sorte de gros festival où ils vont peut-être essayer de montrer qu'ils existent.
Ben, je sais pas, je vois pas en janvier un festival.
Le centre de la France, non?
Dans le trou du cul du monde, je crois, c'est à peu près. Hein.
C'est à gauche du trou du cul.
À gauche,
alors,
oui.
Moi, venant de Poitou-Charentes, je peux pas cautionner ce genre de propos. Enfin, là.
Si, à gauche du trou du cul, j'ai dit que le trou du cul, c'est le Limousin et j'en suis, donc c'est bon.
Bon, ouais, d'accord, admettons, mais on peut pas, hein, parce que moi, Angoulême, hein, c'était quand même toute mon adolescence.
Ben, pour y aller en venant de Marseille, je peux te dire que c'est pas évident.
C'est la galère.
Eh ben ça ne m'étonne pas, c'est un peu compliqué d'y aller. Et puis en plus, il fait froid là-bas en janvier, donc c'est vraiment sympa.
Ouais, qu'est-ce que je vais rigoler. À côté de ça, ils nous refont une anthologie de DC avec plein d'auteurs, des premiers épisodes classiques, etc. Un Superman par Joe Casey et Derek Aucoin, un truc un petit peu récent. Un Batman, donc en album, toujours hein, à 144 pages, 15€, qui vont sans doute être, donc vu le prix, dans le format, comment j'allais dire, le semi-album.
Ouais.
C'est le format semi-album, hein, on ne peut pas le nier. Du Wonder Woman, donc ils attaquent vraiment avec les gros, gros, gros. Ils nous font du Hellblazer, histoire de commencer le Vertigo avec du bon classique. Ils nous ressortent le Soldat Inconnu, qui est un gros titre Vertigo qui avait l'air assez sympa, par Joshua Dysart et Alberto Ponticelli. Top 10, qui était totalement introuvable et qui est génial, par Alan Moore et Jen Ha. Et ensuite, en kiosque, ils vont avoir un magazine Flashpoint, c'est pour nous montrer le gros événement qui va amener au renouveau de l'univers d'ici, c'est autour de Flash, et un magazine Batman avec bah, les classiques auteurs de Batman, ceux qu'on suit en ce moment, Grant Morrison, Burnham, Paquette et Clark. Là, ça va être dans la suite directe du Batman Universe de chez Panini.
Comme je disais, hein, tout ça, ça me semble assez cohérent. Ils essayent, enfin, ils lancent leur offre bah, aussi un peu doucement parce qu'ils commencent à avoir les droits. Et puis, bon, il y a eu le relaunch d'ici, il y a eu tout ça, donc ils peuvent pas sortir les 50 et quelques séries d'un coup.
Mais déjà, ils commencent pas par le relaunch. Moi, c'est ça que je me suis dit, qu'ils auraient recommencé par le relaunch. Et s'ils ne le font pas, je trouve ça assez plutôt pas mal. Ça évite d'avoir un gros trou dans la trad.
Ben ça, et puis ça permet aussi d'avoir un univers qui risque d'être un peu plus cohérent. Si tu, enfin, moi, pour moi, c'est ça, c'est que les gens commencent à rentrer dans l'univers de manière un peu cohérente et ensuite décliner un peu toutes les séries pour découvrir DC. Parce que autant du côté de Marvel, maintenant, on a les films qui permettent de se lancer et de commencer les comics avec quand même en connaissant un peu, alors que là, DC, c'est encore pas très très connu.
Ah, je suis désolé, France, hein, quand t'as vu le film Wolverine, tu commences pas les comics. Hein.
Bon, à part celui-là, mais tu commences par le premier X-Men qui est quand même pas mal. Enfin,
oui.
Voilà.
Il a pris un petit coup de vieux quand même, mais il est pas mal.
Bah, en même temps, il commence à être vieux, quoi.
La version 1.5 est excellente, avec d'un coup les doublages anglais au milieu, c'est sympa.
Ouais. Ce que je note aussi, c'est qu'ils attaquent sur les gros personnages emblématiques et même ceux qui marchent pas. Je veux dire, donner sa chance à Wonder Woman alors que ça a jamais marché en France. C'est peut-être aussi une façon de tâter le terrain.
Bah c'est peut-être, enfin ça je sais pas trop. C'est vrai que Wonder Woman c'est un peu bizarre, surtout que même le projet de série aux États-Unis a été annulé et qu'ils ont dit ouais non on va peut-être arrêter ça. Enfin voilà, donc c'est à voir, mais oh, c'est toujours marrant.
Ouais peu. C'est un Wonder Woman de Straczynski aussi. Hein.
Mais il y avait un projet de film aussi Wonder Woman non qui a été abandonné.
Mais si ouais, ouais, abandonné.
Ouais. Bah Wonder Woman ouais c'est un peu le projet abandonné quoi. C'est vraiment pas de chance.
Bon, par contre, ce qui me fait beaucoup sourire dans leur communiqué de presse, c'est les petites phrases super commerciales à l'ancienne. On a l'impression que c'est de la réclame. Hein. Un récit en deux parties entièrement inédit. J.M. Straczynski est le créateur de la série TV Babylon 5 et scénariste de Thor. Et ils mettent qu'un point d'exclamation, mais on sent qu'ils avaient envie d'en mettre plein, plein, plein.
Ouais, non, mais et puis il y avait la petite pastille en étoile avec écrit promotion de HT3. Non, il n'y avait pas ça.
Non, il n'y avait pas.
Comme au Champ du Coin.
Voilà, donc ça m'a un peu fait sourire dans le communiqué de presse, ça faisait très « Regardez, c'est trop bien !» j'espère que ça le sera, j'espère qu'ils feront de bonnes éditions et je leur souhaite bonne chance pour reprendre le travail que Semic avait commencé pour réussir à imposer l'univers d'ici en France, que Panini avait continué de son côté en faisant ce qu'il pouvait. C'est pas évident.
Non, mais c'est vraiment triste pour Panini parce qu'au moment où ils commencent à faire des beaux bouquins, c'est parce que les premiers, enfin, on peut quand même en dire du mal, je pense. Hein,
oui.
Voilà. Et au moment où ils commencent à se dire bon allez tiens on va peut-être faire des beaux bouquins parce que peut-être que le comic ça va marcher et bon ben là ils se font sabrer quoi, c'est quand même un peu triste.
Moi,
leurs efforts n'ont pas été couronnés de succès.
C'était exactement le même cas pour Semic. C'était exactement la même chose qui est arrivée. Moi j'avais suivi bien à cette époque-là. Eux aussi avaient commencé à faire des beaux efforts pour DC. Panini est arrivé, leur a piqué la licence et il est arrivé la même chose à Panini derrière. Ouais. J'espère que Urban Comics ira plus vite pour imposer la licence. Et j'espère surtout qu'ils vont faire du bon boulot sur les séries Vertigo que je suis et qui me font peur.
Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup le fait qu'ils aient été immédiatement sur les réseaux sociaux, un peu partout,
ouais.
Pour commencer à vraiment discuter avec les fans de comics et avoir. On le voit, dès qu'on leur envoie des mails, ils sont réactifs. Il y a toujours des réponses, il y a toujours des. Ils sont super réactifs là-dessus et ça, c'est quand même vraiment, vraiment sympa. Et on sent un changement de mentalité aussi parce que Dargo n'était pas très au taquet sur le web. Et on sent un vrai changement de mentalité et ça fait vraiment plaisir.
Puis chez les fans de DC aussi, qui se sont mis à la VO depuis très, très longtemps, et qui pour les faire revenir à la VF, va falloir assurer.
C'est ça, on est bien d'accord.
Pic-tou-tou ! Petite dernière news, on teste le format, on va voir, on traîne un peu, on verra si ça vous plaît ou pas, chers poditeurs. On a parlé de Urban il y a quelques numéros. Il faut savoir que sur les forums de BD Geste, le dessinateur du Urban a fait quelque chose de super sympa. En fait, dans un des forums, les gens se sont amusés à chercher tous les clins d'œil qu'il y avait dans la BD. Donc on en avait parlé, c'était bourré de clins d'œil et de références dans tous les sens à la culture populaire du dessin animé et de la bande dessinée. Et donc, ce qu'il a proposé sur le forum, c'est de faire un truc super simple, c'est de pouvoir déjà donner un coup de main aux gens qui cherchaient, c'est-à-dire par exemple en mettant la couverture en plein écran. Et il a dit, si vous m'envoyez une photo de vous et du déguisement que vous voulez, j'essaierai de vous glisser dans le tome 2.
Mais ça, on le voit de plus en plus. Hein. Enfin, il y a de plus en plus d'auteurs ou d'éditeurs qui font ça. Et je trouve ça assez fun et assez bien trouvé, en fait.
Moi, je trouve ça très fun, surtout que j'ai pas l'impression que ce soit une volonté commerciale, même si je pense que commercialement, ça a beaucoup de valeur,
oui,
comme genre d'action.
Ça a son intérêt.
Voilà, mais je pense que c'est vraiment l'auteur qui a voulu se faire plaisir parce que ça l'amuse. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que, étant donné que l'auteur est italien, il répond dans un français, on entend l'accent quand on le lit. Je trouve ça super génial. Et donc, il nous propose de participer. Je me tâte à envoyer une photo de Tio avec un dessin de Totoro.
Oh, ce serait drôle, ça.
Tu voudrais pas être déguisé en Totoro dans le prochain Urban?
Ouais.
Ouais.
Ouais. Comme ça, je le montrerai à mes enfants et tout. Je leur fais...
Ah ouais, c'est trop bien.
Ouais. Bah, on avait essayé seul, mais on n'avait pas pu. On
nous a dit que ouais, dans trop... seul, on
ouais, vous étiez trop grand.
Mais seul, par exemple, la démarche était vraiment du concours, enfin, on était dans une démarche vraiment commerciale dans l'idée, c'est-à-dire, enfin, on était dans de la com.
Ah mais ça, enfin, complètement. C'était même sur le site de Dupuis. C'était voilà. Très organisé, très. Mais ça reste une bonne idée, quoi. Enfin, on sentait qu'il y avait les auteurs derrière qui voulaient s'amuser avec ça. Et il y a les éditions. Enfin, je sais plus quel BD qui était en auto-édition chez Sandave, là, l'éditeur.
Oui, oui.
Et ils avaient fait pareil, en fait, pour ceux qui voulaient donner. Un peu pour voir le projet continuer. C'était la même technique. C'était bon, bah, si vous nous envoyez une photo et que vous donnez un peu d'argent pour que la BD se fasse, vous pourrez être dans le prochain épisode. Et c'était vraiment, vraiment sympa. Ça, moi, c'est le genre d'initiative que j'aime beaucoup.
C'est presque dommage que l'éditeur ait pas récupéré l'idée en collaboration avec l'illustrateur pour en faire une sorte de concours, un jeu, quelque chose qui aurait pu avoir plus de com, parce que c'est dans les fins fonds du forum BD Geste, qui est un forum. Je dirais
encyclopédique.
Nommer le forum, il y a tellement de trucs dans tous les sens que c'est dur à suivre.
Bah, et puis c'est des gens qui sont déjà très très initiés dans la BD en général. C'est là, déjà des moment, fans, c'est déjà.
Donc là pour le moment, donc on est le 31 au moment où on enregistre. Il y a eu qu'une personne qui a envoyé une photo de lui et une photo de ce qu'il voulait comme déguisement, quoi. Ouais. J'hallucine du peu de nombre de propositions qu'il y a eu là-dessus, quoi.
On a toutes nos chances.
C'est ça. Donc, cher auditeur, on vous balance le lien sur le site. J'espère que ça sera toujours possible. Peut-être que Roberto Ricci aura décidé qu'il en a marre et que, ou bien alors il aura eu plein de milliers de propositions. Donc, on balance ça sur le site et puis on espère tous être bientôt dans le prochain tome de Urban. Surtout qu'on avait bien aimé le premier. Enfin, moi, en tout cas.
Bah, bon courage. Hein. Enfin, moi, je n'oserais pas ce genre de choses, mais j'espère vous voir dans le prochain tome d'Urban.
Tiens, je vais envoyer une photo de toi et un dessin de Link.
Ah, ça se fait, ça. Ouais,
ah,
ça peut être
d'un coup, là. Ah, ouais.
Allez, ça ira pour cette fois, mais qu'on m'y reprenne pas.
Ok, bon, bah, je pense qu'on a fini pour les news. Merci, Merton.
Attends, tu voulais pas parler d'Akira?
Akira? Ah ouais, Akira, c'est vrai. Attends, excuse-moi. C'était mon jingle.
D'accord, c'est la sirène. La sirène
de Star Kunida.
Non, parce que Akira, on est d'accord que c'est la grande blague du moment, quoi. Enfin, et donc les Américains veulent faire un projet de film autour d'Akira avec des vrais personnages, un vrai film. Donc, il se passerait pas dans Neo Tokyo, mais dans Neo New York.
New York après le 11 septembre.
Ouais,
Neo Los Angeles, comme ça, c'est plus facile.
C'est ça. Ce sera à côté, ce sera chouette. Et donc, ils ont demandé
la première rumeur de casting, juste pour que les gens voient, pour le rôle de Tetsuo, c'était. Ah zut, j'ai plus le nom en tête.
Comment il s'appelle?
Le petit jeune qui est dans le truc où il chante.
Dans High School Musical.
High School Musical.
Ah oui.
C'était lui qui devait faire Tetsuo au départ. Oh, tu ne vois pas la tête de Tio, mais alors c'est terrible.
Zac Efron. Zac Efron.
Oui, Zac Efron.
Il a ramassé, quoi.
Parce que le premier à qui ils ont demandé, c'était, je crois, Brad Pitt, qui a dit « Non, mais arrêtez vos conneries, je suis trop vieux pour jouer un gamin de 15 ans. »
Je suis trop vieux pour ces conneries.
Ce qu'on peut manifestement comprendre.
Et pourtant, dans Benjamin Button, vous le faisiez... Non, mais c'était...
Non, on parle pas de Benjamin Button, mais en tout cas, donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le réalisateur qui était prévu, qui était, ça devait être Albert Hughes, en fait, voilà, c'est ça, il a claqué la porte en disant non mais en fait votre projet c'est complètement nul, donc je vais pas le faire. Et donc là, ils étaient en recherche aussi bien d'un acteur que d'un réalisateur, ce qu'on peut comprendre.
Ils ont un scénariste.
Et ça semble pour gagnant, ça, quand même. Hein.
Alors du coup, ils ont dit, tiens, si on réduisait aussi le budget du film, parce que comme on est déjà
ils n'ont pas encore commencé qu'ils réduisent le budget, ouais.
C'est ça. Donc il n'y a plus que 90 millions de dollars pour faire le film, ce qui est déjà pas mal. Hein, mais
ça
voilà.
Reste raisonnable.
Enfin, suivant quel acteur tu prends, t'as déjà passé tout le budget. Hein.
Bah, c'est un peu le problème, voilà. Et,
il faut des inconnus pour ça.
Et au début, ils voulaient faire un film en deux parties parce que bon, bah c'est sûr, hein, quand t'as vu le premier, tu vas voir le second. Et finalement, ils ont dit non, comme on a plus de sous, on va en faire qu'un. Et ce serait le réalisateur d'Esther, Jom Kolesera, qui donc devrait réaliser ce film.
Et, c'est un film d'horreur avec une petite fille.
C'est ça, voilà, voilà. Et donc ce serait le héros de Tron, l'héritage, Gareth Edlund, qui pourrait interpréter donc Kaneda. Voilà.
Ouais.
Et donc là, lui, il est un peu plus jeune que Brad Pitt, je crois, mais il a déjà bien la trentaine, quoi.
J'ai du mal à imaginer de toute façon. De toute façon, même quand on lit Akira, les personnages, on leur donne plus que la quinzaine qu'ils sont censés avoir. Hein.
Non, mais ça.
Mais j'ai du mal à imaginer les personnages d'Akira ailleurs qu'au Japon, quoi. Surtout avec l'actualité qu'il y a maintenant, ils pourraient rebondir scénaristiquement avec Fukushima.
Complètement. Ils pourraient vraiment faire un truc cool, mais non, ils préfèrent faire ça à Neo New York, voilà. Donc ce sera plutôt un Transformers 4, quoi, ou un truc du genre, à mon avis.
Ah ouais.
Voilà. Donc et pour la petite histoire, c'est Leonardo DiCaprio qui est coproducteur du film et qui lui tient beaucoup à ce projet et qui du coup continue de pousser pour que ça se fasse. Voilà. Donc nous c'est un peu le running gag sur BDO en ce moment. On suit avec attention ce projet parce que vraiment mais on sent que si le film sort, on va rire un peu jaune quand même.
Oui, mais c'est parce que ça manquera de jaune.
Oh, wow, la bonne blague.
Ouais, je sais, je suis comme ça.
Regarde, tiens, t'as vu la couleur là?
Oui, carton rouge. Ok.
Voilà, okay.
Voilà.
Bah donc là, je te dis merci encore une fois.
Bah écoute, de rien. Ce fut un plaisir.
On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles news.
Exactement.
Si le public n'a pas voté contre toi, on n'a pas donné le code, le numéro de téléphone pour envoyer des SMS.
Le problème, c'est qu'il faut si tu tapes juste 1 si tu veux qu'il reste. Donc du coup, c'est vu. Enfin, il va.
Alors, cher
si les gens tapent 2. Hey
Cher auditeur, votez 1 au 8-12-12 ou un truc du genre. Enfin voilà, je veux rester en deuxième mois. Enfin, s'il vous plaît.
Bah, nous, en tout cas, ça nous fera vachement plaisir. Merci beaucoup de ta participation.
Bah, merci à vous. Puis bah, du coup, à bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Ciao.
Ciao, ciao.
Express.
Alors, rubrique Express, ça aussi c'est nouveau. En fait, tout ce qui est kiosque, principalement des comics, on va vous le faire en essayant d'aller super vite pour une raison très simple, c'est que quand on vous en parle la plupart du temps, c'est déjà difficile à trouver en kiosque. Voire introuvable, parce que les nouveaux numéros ont pris le relais. Ça vous permet juste de donner rapidement notre avis et sans vous prendre trop la tête. Et on commence avec le Spider-Man numéro 10, que j'ai considéré au niveau du dessin comme étant dynamique.
Akira. Akiresque.
Akiresque.
Et au, niveau...
ouais. Et au niveau du scénario, je l'ai considéré comme...
Ah non, excuse-moi, inégal.
Ah, inégal. Comme
inégal de dessin.
Prologue.
Oui, parce qu'en fait, c'est pas celui-là. J'ai inversé les pages.
D'accord.
Inégal, et tu m'as dit quoi pour le dessin?
Pour le dessin, j'ai dit dynamique.
Et après, pour le scénar?
Prologue.
Moi, j'ai mis en attente.
Donc, ça annonce beaucoup de bonnes choses. Il se passe pas mal de choses super intéressantes. Moi, j'ai beaucoup aimé le dessin de façon générale, même si c'est vrai qu'il y a plusieurs dessinateurs qui passent dessus.
Ouais, avec plus ou moins de succès, parce qu'il y en a qui sont très très bien, il y en a qui...
C'est un moyen. Au pire, c'est moyen. Moi, je veux dire, c'est pas. Il y a rien de mauvais, je trouve.
Il y a des petits portraits qui sont pas flambants quand même.
Donc, en gros, c'est une des dernières confrontations avec Mysterio. On peut l'annoncer de suite, sachant que Peter Parker a Iron Man qui lui sert de comment dire
de parrain.
De parrain, sauf qu'il sait pas quoi lui faire faire. Alors, il fait faire n'importe quoi.
Non, il veut lui expliquer comment on devient un super-héros en fait.
Oui, sauf qu'il sait pas. Parce que lui, il sait pas être un super-héros, il sait qu'être riche. Et en parallèle, la chatte noire a volé un objet au caïd que Mysterio veut récupérer, un objet qui est très très puissant et qui annonce la suite des événements qui vont mener, probablement vu le titre de l'épisode, à la mort de Spider-Man.
C'est la clé du Zodiac.
C'est super. Moi, j'ai trouvé ça très comme d'hab. C'est du Spider-Man. Bendis au dessin est toujours génial. Pichelli, Lafuente sont sympas au dessin.
Bendis au dessin, non.
Au scénario, pardon.
Au scénario, c'est pas mal, ouais.
Et puis, franchement, pour moi, c'est la série Ultimate à suivre, les Ultimate Spider-Man. Je me fais toujours plaisir à les lire.
Actuellement, ouais, franchement, c'est intéressant.
Surtout quand on pense à Ultimate Avengers numéro 9.
C'est la fin d'une époque, hein.
Alors, au niveau du dessin, qu'as-tu dit? J'ai mis « Nye ».
Pourri du cul.
Et au niveau du scénario, j'ai
bof.
Mis « Grrr ».
Bof. Alors, on n'a pas eu beaucoup de lettres. Hein. Au moins, on a fait des économies là-dessus.
Bon, on continue à dire du mal, même si j'aime bien Steve Dillon sur d'autres choses que là-dessus, mais il n'est pas fait pour faire de l'aventure super-héroïque où ça court dans tous les sens.
Bah, surtout, je n'ai pas le parti pris de... J'ai l'impression que c'est de plus en plus pâle, quoi.
Ouais, mais c'est parce que c'est des vampires.
Ouais, non, mais il y a un moment où. Ouais. Enfin, je veux bien que les vampires soient pâles, mais est-ce que le décor doit être pâle aussi, quoi ?
Quel décor ? Enfin, les vampires c'est et les super-héros, franchement, ouais, bon, c'est moyen. Allez, on va dire. Autant dans le précédent numéro, il y avait 2-3 passages qui nous avaient fait un peu rigoler. Là, même pas. Et il se passe un truc apparemment très important à la fin de l'histoire. Je suis vraiment désolé que ce truc important arrive dans un truc aussi peu intéressant.
Voilà. Ensuite, Mark Millar, je pense qu'il faut qu'il arrête de perdre la fin de ses scénarios.
Ouais.
Parce qu'en fait, il devait avoir le début et la dernière page, il avait dû la faire un jour, mais il a dû la perdre.
Ouais.
Et il a fait de mémoire et du coup, bah...
Ouais, mais il avait 10 ans quand il a écrit aussi. Hein.
Ah, ouais, ben bah voilà. En fait,
voilà,
parce que non, parce que la fin est pourrie, quoi.
Voilà. Donc c'est l'avant-dernier passage de Mark Millar. Hein. Il enchaîne dans le prochain numéro. Mmh. Bon, c'est.
Ce sera pas mémorable, je pense. Hein.
C'est bof. Avengers hors série. New Ultimates. On se retrouve avec les Ultimates, les vrais, pas les Avengers qui reprennent le relais, qui reviennent autour du personnage de Thor qui a disparu et de la Valkyrie qui aimerait le faire revenir. C'est scénarisé par Jeff Loeb, qui avait déjà travaillé sur les Ultimates avec Madureira à l'époque.
Ouais, et qui va revenir d'ailleurs, après le passage de Bendis et de Millar, pardon, et de...
Voilà, on verra.
Steve Dillon.
C'est dessiné par Frank Cho, que j'aime beaucoup, qui faisait Liberty Meadows. Voilà. Au niveau du scénario, j'ai mis que c'était ambivalent.
Intéressant.
Ok, bah pourquoi ? Alors en fait, le scénario basique, enfin assez basique en soi, c'est ils essaient de faire revenir Thor, machin chose, pour qu'il revienne. La Valkyrie est pas contente, baston, baston, on enchaîne, enquête, baston, enquête, baston. C'est très basique. Sauf que de la façon dont c'est raconté, chaque épisode a en voix off un des personnages de l'intrigue.
Qui donne ses pensées, quoi.
Qui donne ses pensées, et qui sont souvent. Qui suivent bien en parallèle l'histoire. Je trouve que c'est très bien écrit à ce niveau-là. L'édito nous rappelle très intelligemment que Jeff Loeb, qui a perdu quand même son fils d'un cancer, quand il fait au tout début le rappel du fait que Tony Stark a eu un cancer, le fait de façon assez émouvante, effectivement, parce qu'il sait de quoi il parle. J'ai trouvé ce parti pris au niveau de la narration, où on a l'action, de l'action, de l'action pure non-stop, et des textes de pensée qui sont plus dans la réflexion, dans... Enfin, j'aime beaucoup comment ça a été fait. Au niveau du dessin, j'ai mis que c'était sexy.
Bien. Je suis pas resté très, je suis resté assez simple dans les mots.
Moi, je trouve que Frank Cho a un trait super dynamique. Il dessine super bien les filles. Malheureusement, il dessine un peu toujours la même. C'est son seul problème au niveau des visages. Hein.
Ben, c'est le même visage. C'est voilà. Comme tu disais tout à l'heure, c'est juste la couleur des cheveux qui change.
Et la coupe, vaguement.
Et aussi la taille de la poitrine.
Voilà. Donc voilà, il dessine très très joliment les filles, les singes aussi, mais il y en a pas dans celle-là de BD. Son Thor, je le trouve, il a une putain de classe. La façon dont il a de représenter Thor, je l'ai trouvé vraiment très bien foutu. Franchement, ça fait plaisir de le voir là-dessus, même si, enfin, je crois peut-être qu'il est plus, il serait plus à l'aise dans un genre un peu plus léger, comme il avait fait avec Liberty Meadows, avec des animaux qui parlent et des jolies filles. Enfin, moi, ça marche très très bien, quoi. C'est juste dommage que ces personnages féminins aient tous la même gueule.
Mais tous.
Mais ça reste un bon achat, c'est pour le prix que ça coûte, franchement, c'est un bon divertissement.
Et puis c'est peut-être plus intéressant que d'autres Ultimates.
Voilà, donc c'est en plus, voilà, le prix, on peut le dire, c'est 5,60€. Ça va être peut-être encore trouvable. Ultimate Spider-Man.
Hors série numéro 3.
Donc, il y a eu un triptyque de hors série avec Ultimate machin chose. Là, on est sur Ultimate Fatality. On a appris qui était le gros méchant qui se cache derrière tout le monde. On peut le dire, hein. C'est dit au début, c'est Reed Richards qui a pété un câble et en gros, ils vont lui taper dessus pour essayer de l'empêcher de nuire. Voici le résumé du scénario. Qu'as-tu dit sur ce scénario ?
Ben, pour moi, c'est un nouveau départ.
Moi, je dis basique. Bleh.
Ah non.
Ouais, c'est basique. C'est...
Oh, pourquoi ?
Ouais, on envoie tout le monde la télé-gueule du gros méchant et voilà.
Ouais, mais le gros méchant, c'est pas n'importe qui.
Ouais, mais c'était un peu...
Non, alors, je pense que c'est un nouveau départ parce que justement, t'as vraiment tous les personnages qui sont en train de changer leur façon de penser et leur style de vie, quoi.
Enfin, en tout cas, on le voit entre ça et le Ultimate Spider-Man normal, les personnages de l'univers Ultimate et de Marvel s'écartent de plus en plus les uns des autres. C'est vrai que ça, c'est intéressant. Et au niveau du dessin,
c'est là que j'ai mis Akira.
Moi, j'ai mis expressif. Enfin, Rafa Sandoval a un style que je trouve génial. Effectivement, il y a quelques plans, passages qui font penser à du Akira dans ce que ça représente, pas dans le style graphique, parce qu'on en est quand même assez éloigné. Mm-hmm. Mais les têtes des personnages de Rafa Sandoval sont vraiment très expressives. On arrive à ressentir ce que ressent le personnage en voyant sa gueule. Au niveau de l'action, c'est très dynamique. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son dessin. quelque chose à rajouter ?
Non.
Non.
Bah, c'est express, on va dire.
Voilà. C'est pas fantastique, mais ça se laisse lire. Si vous avez lu les précédents, allez-y.
Yep.
Dans les bacs.
En fait, j'aurais pu faire croire que c'était moi qui faisais le jingle en sifflotant et tout, mais personne.
Mais c'est le téléphone qui sonne, mais c'est pas grave, tu vois, ça nous fait un jingle bien improvisé et tout. Ouais. Tu fais vachement bien le bruit du téléphone à la bouche. Portugal, un voyage initiatique en ce qui concerne le genre. Donc, Portugal est un livre de Cyril Pedrosa dans la collection Air Libre chez Dupuis, et c'est un pavé.
Un pavé, oui, là, on peut le dire.
Un très 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 gros pavé, mais un très 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 beau bouquin. Que nous raconte Portugal, mon ami Thio ? Je t'écoute.
Donc on va suivre en fait la vie de Simon Moucha, mais Moucha avec un T.
Mmh. Ah, je disais Moucha, mais c'est vrai que c'est Moucha.
Et c'est un peu l'histoire du gars mal dans sa peau, qui n'a jamais rien mené au bout, et qui va faire un voyage dans ses racines, quoi. Il va revenir aux sources.
Déjà, ça commence par, il essaye de travailler sur un bouquin, parce qu'il est illustrateur, et il n'y arrive pas, il est bloqué entre les trucs commerciaux, dans son couple, sa femme essaie de le faire avancer, mais lui, il y va reculons non-stop, ça se passe pas forcément super bien. On enchaîne sur, il se retrouve à un mariage, on a trois parties vraiment, on a la première partie avec sa femme.
Deuxième partie avec le mariage.
Avec le mariage, où il revoit tous ses...
Toute sa famille.
Toute sa famille, les anciens, quoi. Et toute une dernière partie où il part au Portugal. Vous allez nous dire, mais autant de pages pour nous raconter juste ça. Ah ouais, mais il les fallait, quoi. Au niveau du scénario.
Intimiste.
Émouvant. Ce personnage, enfin, je trouve que c'est le portrait de tous les personnages qu'il y a dedans est très, très, très réaliste. On y croit.
Très juste.
C'est très juste, voilà, plus que réaliste.
La scène de mariage avec toute la famille, c'est...
je crois que scène de rupture aussi.
On l'a tous vécu, la scène de rupture, on l'a tous fait. Le coup de téléphone à 4h du mat', on l'a tous... Non, peut-être, on a peut-être pas soucié celui-là, mais on a eu envie de le faire.
Ouais, franchement, c'est très vrai. On croit à tous ces personnages qui sont tous touchants, qui sont tous humains et qui sont tous super agréables. Moi, j'étais vraiment touché par cette histoire et par ces personnages. Et puis Simon, qui est un gars comme les autres, en fin de compte, qui se cherche. Sauf que bon, bah maintenant, on se cherche à 30 ans et plus à 20, quoi.
C'est un peu ça.
Qu'est-ce que tu rajouterais sur le scénario ? Qu'est-ce qui t'a...
Ben, j'ai eu tu suis sa vie en fait. Voilà, tu suis sa vie sans suivre ses réflexions, parce qu'en fait finalement il n'y a pas non plus des masses.
Oui, il est plus témoin qu'acteur.
Il est vraiment passif dans...
Mais il est témoin de sa propre vie même.
Ouais.
Au début en tout cas. Mm-hmm.
Et du coup, c'est vrai que moi j'ai eu un grand flottement, parce que bah, t'as beaucoup beaucoup de pages où on est spectateur de l'action, et à un moment je suis rentré dedans.
T'as eu un déclic
Voilà, ça a été la...
À quel moment t'as eu le déclic ?
Ben, je te le dis, c'est la lettre du père, en fait.
Enfin, son père lui écrit une lettre.
Voilà, ouais. Son père lui écrit une lettre. J'ai pensé que c'était le déclic qui allait peut-être un petit peu booster le truc. Finalement, non. Mais juste après, c'est ce qui lui permet, en fait, de partir.
Ouais.
De faire le voyage au Portugal. Et c'est là, à ce moment-là, vraiment, que je suis rentré dans le truc.
Très, très beau bouquin. Au niveau du dessin.
Attends, voilà, ce que j'ai mis, c'est les couleurs, moi.
J'ai mis magique.
Voilà, enfin, moi, j'ai trouvé ça très simple. Et à la fois très complexe. Il y a des jeux dans les couleurs, dans les ambiances, dans les émotions que ça transmet.
Dans le découpage aussi. Hein. Le découpage est super travaillé, super réfléchi.
Ouais, mais t'as l'impression que c'est fait avec facilité. Quoi. Ouais, qu'il y a pas de...
Et là, il y a une décomposition du temps. Il est accéléré, ralenti. Les passages où il se sent immergé parce qu'il est en train de sombrer, qui sont d'un coup, prennent des pages immenses avec des couleurs dans tous les sens. Enfin, c'est beau, quoi. Et le style varie en plus en fonction des émotions.
Et en fonction du moment.
Du moment. Subtilement, c'est pas des variations énormes, mais surtout dans les couleurs, comme tu disais... Les couleurs changent et la... ouais. Enfin, c'est un superbe ouvrage. Moi, je suis resté sur le cul. Je pense que c'est sans doute un des bouquins de l'année. J'aurais tendance à dire. Que dire d'autre ?
Que dire d'autre ? Moi, ça m'a fait penser à un bouquin qu'on avait chroniqué il y a peut-être presque un an maintenant. C'est Nous ne serons jamais des héros.
Ouais, il y a un peu
de Salcedo. C'était. Mais j'ai l'impression qu'en fait, dans le bouquin, tu fais la même chose, quoi. Tu fais un trajet. Là, lui, il a besoin de faire le voyage pour être. Ouais. Il a besoin de partir au Portugal pour se retrouver et finalement se créer sa vie.
Il a un passé moins douloureux aussi.
Il a un passé moins douloureux, mais c'est vrai que du coup, tu prends Nous ne serons jamais des héros. En fait, il revient finalement chez lui, mais en ayant fait le voyage avec son père, il a tout changé de sa vie, quoi. Et j'ai, enfin, pour moi, c'est deux bouquins qui sont...
Qui se répondent un peu.
Qui se répondent un peu, quoi.
Enfin, un très beau bouquin. Il était disponible en lecture sur le site 8 Comics. On peut voir les derniers épisodes, les dernières pages, si vous voulez, qui doivent être encore disponibles. C'est un régal. Enfin, moi, c'est une de mes grosses recommandations. Je n'ai pas choisi sur Splash Page ce mois-ci pour d'autres raisons que je vous expliquerai. D'ailleurs, on n'a même pas expliqué ce que c'était la Splash
Page. Tu n'as même pas expliqué. C'est pour ça que du coup, là, tu dis ouais, on va faire une
surprise pour vous.
35 euros. C'est cher, mais y a du lourd, quoi. Il y a de la matière.
Trois secondes de Marc-Antoine Mathieu.
On l'a mis dans l'expérience narrative.
Ouais, une vraie expérience narrative. Marc-Antoine Mathieu est un malade. On a déjà parlé des Jules Corentin et Kefak, qu'on avait beaucoup aimé tous les deux. Là, il a décidé de partir dans un délire sur le trajet d'un photon pendant trois secondes. Voir tout le trajet qu'il faisait, voir ce qu'il voit. Voir par ses yeux, en vue subjective. Et donc on passe d'un miroir à un autre, parce que bien sûr il tape dans des miroirs qui permettent de voir les scènes sous différents angles, pour créer, et on se retrouve témoin de plein de petites scénettes, de plein de scènes qu'on voit dans d'autres angles, des choses qu'on croyait avoir compris, qui en fait sont différentes quand on voit l'autre angle derrière. Et puis le temps qui passe, parce qu'à un moment, le photon part jusqu'à un satellite, et le temps qu'il revienne, il y a une seconde qui a dû se passer, mais il s'en passe des choses en une seconde. Et l'action a évolué. Et une sorte de puzzle au niveau de l'intrigue pour comprendre ce que l'on voit. Qu'as-tu dit au niveau du scénario ?
Conceptuel masturbatoire.
Labyrinthique. Alors, ton conceptuel masturbatoire sous-entend beaucoup de choses.
Sous-entend que, écoute, on a déjà chroniqué du Marc-Antoine Mathieu. Moi, ça m'avait vraiment plu, je m'étais régalé. Mais là, peut-être qu'il est allé... Enfin, pour moi, ça a été trop conceptuel, quoi. Je sais pas, il veut créer le buzz en faisant, en s'inventant un nouveau truc, quoi.
Moi, je pense qu'il a voulu tout simplement, il y allait dans son concept. Au départ, c'était un projet sur le web où on devait avoir le zoom tout du long. Et en fait, il a découpé en plusieurs cases pour essayer d'en faire un bouquin. Il a vu que ça marchait. Moi, ce que j'ai trouvé très, très, très intéressant scénaristiquement, c'est qu'on n'est pas spectateur. Comme dans n'importe quel bouquin où on suit l'action, on voit ce qui se passe, on est vraiment acteur. On est obligé de recouper les morceaux. Moi, je me suis retrouvé à plusieurs moments à revenir en arrière pour dire « Attends, j'avais vu un truc, c'était un indice là-dessus, mais qu'est-ce qui a pu se passer ? Qu'est-ce qui a fait ça ?» On se retrouve vraiment acteur. C'est un jouet plus qu'un livre, en fait. On est dans le jeu. Et moi, c'est un concept qui m'a beaucoup plu. Mais c'est vrai qu'on est aux limites de la bande dessinée. Ça reste de la BD, dans la façon dont c'est raconté, mais on est vraiment... aux limites du fait de cette expérience qui est poussée vraiment très très loin.
Moi je suis pas je l'ai lu comme toi, mais je suis pas du tout rentré dans le truc dans le sens ouais c'est un jeu quoi. Alors oui il y a quand même une prouesse au niveau du dessin et au niveau du cheminement de ce dessin parce que c'est voilà il faut vraiment penser
de l'enquête et de tous les indices qui au fur et à mesure.
Voilà il y a un travail qui est énorme là-dessus, mais est-ce que comme tu dis, ouais, on touche peut-être la limite de la bande dessinée, quoi. Moi, je suis resté assez hermétique là-dessus. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il essayait vraiment de faire, de pousser le concept de plus en plus loin, les limites pour nous faire une expérience, quoi. Mais
pour rentrer, on est dans de l'expérience.
Ouais, pour rentrer là-dedans, est-ce que est-ce qu'on est dans une histoire ? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ? Oui, mais s'il faut chercher pendant deux heures pour réussir à résoudre tous les trucs qu'il te dit au début.
On est dans un livre dont on est le héros. Hein.
Ouais, mais je trouvais ça plus intéressant dans le livre dont on est le héros parce qu'il y avait des trucs à lire.
T'es plus guidé.
Il y avait des trucs à lire surtout. C'est que là, il y a rien à lire. Hein.
Ah oui, non, il y a quasiment rien à lire. Mais c'est le jeu des images. Enfin, moi, j'ai été pris dans le jeu. Ça m'a bien plu. Au niveau du dessin, j'ai mis mécanique.
Moi, j'ai marqué de travail en fait parce que je pense qu'il doit y avoir un travail énorme. Énorme pour réfléchir à tout ça.
Moi, je trouve que c'est un côté mécanique. Donc, il y a tout ce côté de noir et blanc très tranché que Marc-Antoine Mathieu utilise en général. Hein, donc, vraiment, du noir, du blanc, pas de demi-valeur, quelque chose de très tranché, mais qui, du fait de devoir jouer avec toutes ces zones de réflexion, tous ces trucs-là, a un côté très mécanique, très assez froid en fin de compte. Et du fait que ce soit que des arrêts sur image, c'est très statique en fin de compte. On est tout le temps dans la pose. Même si. Il triche un petit peu. Par exemple, quand on voit une balle qui fuse, on a le tracé de la traînée de la balle. qui reste du langage de BD et qui, s'il avait été vraiment à fond dans son concept, on n'aurait pas dû voir ça. Je suis pas sûr, quoi, qu'on voit le traîner de la balle. En vrai. Sauf dans Matrix, où ça fait des petites bulles et les gens, ils dansent autour.
Alors, je dirais, ça dépend. Peut-être qu'en sortie de canon, tu dois encore avoir des résidus de poudre qui doivent partir dans le sens de la balle. Tu dois faire un trait derrière.
Ouais, peut-être, j'en sais rien. On va demander à Grissom, il est en Provence en ce moment.
Ouais.
En tout cas, si vous êtes curieux de la bande dessinée, de son fonctionnement, je pense que c'est vraiment à lire, au moins à feuilleter.
Alors, je reprends ton idée. Si vous êtes curieux de la bande dessinée, mais à un stade avancé hein, de la bande dessinée, prenez 3 secondes.
Oui, curieux de la BD, voilà. De la BD en elle-même.
Si vous êtes juste, vous aimez la bande dessinée, vous êtes curieux sur la bande dessinée, vous souhaitez vous rentrer là-dedans, prenez pas 3 secondes tout de suite. Hein. Patientez un peu, lisez peut-être du Scott McCloud avant pour vous familiariser, du Will Eisner pour essayer de voir un petit peu les jeux qu'on peut avoir là-dessus. Parce que je pense que 3 secondes, là, c'est quand même c'est le niveau ultra avancé. Quoi.
Ouais, c'est du basique, du plus-plus.
Ouais, c'est du plus-plus, voilà, on va dire ça.
Pas de jingle, là, il y a les vrais jingles que des gens enregistrent.
Non, c'est un vrai jingle. Je faisais le cheval.
Tu fais vachement bien le cheval.
Merci. Et donc, Les Sentinelles, le tome 3.
Donc, on vous a parlé des deux tomes qu'on avait beaucoup appréciés en rattrapage.
Yep.
Et le tome 3.
Donc, on continue dans nos aventures. Je te demande même pas de me passer la BD, parce que de toute façon, tu t'en fous. Maintenant, tu ne me passes plus rien. Enfin, voilà, merci.
C'est ça, les vieux couples. C'est de l'historique humaniste. Voilà comment nous l'avons classé dans le genre. Que nous raconte ce tome 3 ?
Ben on continue donc dans l'histoire de Gabriel Ferro, donc qui est devenu la Sentinelle. On continue donc dans notre guerre. On a fini la bataille de la Marne. On est désormais donc en avril 1915, donc à Ypres, et le début de l'utilisation des gaz de combat. Qu'est-ce que t'as pensé toi du scénario? Qu'est-ce que t'en as dit?
Alors mon mot pour le scénario, mitigé.
Ben, moi c'est moralité immoralité.
J'ai trouvé qu'on n'avançait pas beaucoup en fait dans la thématique qui était lancée. Qu'après deux tomes où les choses avançaient très vite, vu qu'on avait la transformation de Gabriel Ferro en Sentinelle, la présentation de la première scène d'action, combat, etc.
Pardon, oui, on a quand même une chose, c'est qu'on a aussi la Sentinelle allemande qui apparaît.
Oui, on a les Sentinelles allemandes, l'opposition qui se met en place. Bah là, j'ai trouvé qu'on se retrouvait avec une certaine redite au niveau du discours, de ce qui était raconté, et qu'on n'avançait pas énormément. Alors, on passe toujours un très bon moment à le lire, hein, c'est très sympa, mais les deux premiers tomes étaient tellement riches qu'on a l'impression d'être passé à une vitesse ralentie, là, pour le coup.
Au contraire, j'aurais dit que c'était volontaire, quoi, ce ralentissement un petit peu dans la narration pour s'atteler, si tu veux, à la... pour s'atteler justement au vécu des personnages et aux transformations de Gabriel Ferro qui va se retrouver à devoir faire une guerre qu'il ne voulait pas au départ, oui. Et surtout à se transformer en quelque chose qui devient inhumain pour lui, mais qui pour autant il sait que il est le garant d'une certaine
certain équilibre,
d'une certaine équilibre, d'une certaine valeur pour tous les autres soldats. Et moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça justement assez intéressant parce que tu as aussi le maire, une nouvelle sentinelle qui arrive.
Oui, personnage honorable.
Voilà,
très...
c'est que du coup, il se retrouve vraiment dans le sang, quoi, dans le sang, dans la boue, dans les morts, et tu réalises bien que c'est que les personnages, ils en sortent transformés, quoi.
Mais ça, on l'avait déjà, enfin pour moi, on l'avait déjà réalisé au tome précédent.
Non, pas autant.
Ouais, ça se poursuit, mais ouais, j'ai trouvé que c'était moins, enfin. Moins de scènes choc, par exemple, toute l'intrigue secondaire avec la femme de Ferro.
Ouais.
Vous totalement zappé dans ce tome-là, quoi. Je me serais attendu à au moins avoir, tu sais, comme dans les séries américaines, quoi, deux, trois petites scénettes qui font pas beaucoup avancer l'intrigue, mais qui te montrent que ça continue à progresser et qu'il se passe des choses, quoi. Toute l'histoire autour des traîtres, ils font un passage vite fait, mais rien n'évolue. En fait, au niveau des gros segments de l'intrigue, j'ai l'impression qu'à part l'apparition des sentinelles étrangères, rien ne se fait, rien ne se passe, et que quand on arrive à la fin de ce tome-là, où est-ce qu'on en est par rapport au début, quoi ? Ils vont aller faire une autre bataille et ça va être à peu près la même chose. Je vois pas en quoi ça a évolué. Alors oui, ils sont là, ils sont battus contre la sentinelle allemande, puis ça va continuer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Le statu quo est le même, j'ai l'impression, en fin de tome.
Pas exactement. La conclusion, pour moi, elle se situe justement dans la discussion entre les généraux, quoi. Qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est immoral, quoi.
Oui.
Ce qui est moral, c'est la guerre avec le gaz. Ce qui est immoral, c'est la sentinelle.
Oui. Oui, il y a ça.
Et alors que du coup, Ferro, lui, quand il le voit, il juge bien qu'il vaut mieux cette petite immoralité de la sentinelle. Enfin, c'est l'effet inverse, lui, qui voudrait.
Enfin, de notre côté, c'est ce qui lui permet de survivre, hein. C'est pas faux. C'est facile de dire ça.
De quoi ?
Que c'est lui qui est le moins immoral. Sans les sentinelles, Féro ne serait plus de ce monde.
Ouais, mais là, je pense que tu t'avances. Je suis pas certain que ce soit son avenir propre qui l'intéresse.
Bon.
Je pense qu'il est plus intéressé que ça.
La série reste quand même très sympathique. Au niveau du dessin, on n'en a pas parlé.
Qu'est-ce que j'ai mis ?
J'ai mis iconique.
J'ai mis des gueules de guerre, en fait.
Des gueules de guerre.
Ah, pour moi, je trouve que c'est encore plus flagrant. On a vraiment j'ai l'impression de voir des photos en fait, de la guerre de 14.
Moi, c'est le côté iconique qui m'a fait ressortir ces personnages qui sont montrés. Alors, assez iconique. On a un petit côté cliché, entre guillemets, dans le sens cliché de la guerre. Quand ils mettent les photos au milieu, etc., on a l'impression que c'est très bien intégré. Et on a l'impression de voir ces icônes de gueules cassées, de poilus, de ce que tu veux.
De la propagande.
Oui. Enfin bon, le dessin est toujours aussi sympathique.
Non, franchement, Breccia fait un travail qui est énorme, je pense. Même au niveau recherche.
Oui, c'est du très très bon boulot. J'ai hâte d'avoir le suivant. J'espère qu'on l'aura aussi vite.
Bah, dès qu'il sort.
Ouais.
Je suis pas trop en retard sur mes achats. Pour une fois.
Splotch Page. Ah, il était beau celui-là.
Et même et improvisé en plus.
Alors, tous les 15 jours, chacun d'entre nous, on alternera pour choisir un titre, ancien, nouveau, etc. On s'en fout en fait. Qui nous a beaucoup plu, dont on a envie de parler plus en détail. Et je vais donc vous parler de Battle Chaser de Joe Madureira, qui est un ouvrage assez difficile à trouver maintenant, pour plein de raisons que je vais vous
voir impossible.
Exposer. Souvenez-vous, nous sommes au début des années 90. Les plus grands dessinateurs de chez Marvel quittent le navire pour fonder Image Comics. Ils cherchent aussi de nouveaux talents pour les seconder et les aider, car ils ont beaucoup de tâches de gestion à faire en parallèle et c'est la galère. Fin des années 90, ils essayent de donner une chance à leurs petits nouveaux. Pour éviter qu'ils leur fassent le coup, sans doute, qu'ils ont fait eux-mêmes à leurs prédécesseurs. Et leur offrent une collection qu'ils appellent Cliffhanger. Dans la collection Cliffhanger, nous avons les plus grands dessinateurs de chez Image Comics. Avec Jeff Campbell, Humberto Ramos, Joe Madureira, Chris Bachalo. La classe, quoi. Humberto Ramos nous sort Crimson et d'une régularité exemplaire. Il finit sa série en 24 épisodes, si je ne m'abuse. Très très bonne série d'ailleurs. Et il enchaîne même avec une autre qui s'appelle Out There, juste derrière. Les autres auteurs ont dû prendre un peu la grosse tête. Chris Bachalo nous fait des planches superbes avec Steampunk, mais ça part un peu dans tous les sens et il se perd un petit peu parfois dans des délires narratifs au niveau du dessin. Jeff Campbell avec Danger Girl fait une série très très appréciée parce que remplie de jolies jeunes filles espionnes. Et en plus, une parodie de Bruce Campbell dans le rôle de leur compère. Il est fan de Bruce Campbell. Sauf qu'il sort ça à une régularité, mais ridicule. Ils sont pas capables de sortir un épisode par mois. Et Joe Madureira n'est pas en reste. Joe Madureira nous sort la série Battle Chaser. Battle Chaser, c'est une histoire médiévale fantastique. Tout ce qu'il y a de plus basique. Arcane Punk, diront certains, comme j'ai pu le dire sur Wikipédia. Nous sommes dans un univers donc médiéval où la magie est très présente et fait fonctionner des machines, d'où le côté arcane punk, comme ils disent. Et nous allons suivre les aventures d'une jeune fille qui se nomme Gully, dont le père est parti il y a des années et qui se retrouve agressée par des créatures qui veulent voler quelque chose chez elle. Cette chose-là, ce sont des gants, les gants que son père Aramus possédait et qui sont des gants de pouvoir. Alors qu'elle s'enfuit, elle est soutenue par deux autres personnages qui sont Calibretto, un golem de combat, et Nolan, un sorcier très ancien et très mystérieux dont on ne sait pas grand-chose.
Qui ressemble à Tortue Géniale.
Il se retrouve à croiser aussi un certain Garrison, un homme qui a décidé d'abandonner le combat alors qu'il était un des héros légendaires de l'univers et qui ne veut plus se battre mais qui se retrouve confronté et forcé de le faire et qui rejoint le groupe au bout d'un moment. En parallèle, on suit aussi les aventures d'une de ses anciennes élèves, une de ses anciennes compagnes, qui s'appelle Red Monica, ou Monica la Rouge, dont vous pouvez entendre la poitrine qui se déplace depuis un moment, car elle a une poitrine assez...
C'est gigantesque.
Gigantesque et improbable. Chacun de ces saints fait presque deux fois sa tête. Je n'ose imaginer comment ce personnage pourrait... Heureusement qu'on est dans un monde magique, quoi. C'est pas possible. Je pense qu'il y a un sort de lévitation sur chacun d'entre eux pour qu'ils puissent se déplacer.
Ou alors elle s'est fait siliconer.
Ouais, mais avec du silicone en hélium. Et donc elle, c'est une voleuse, et elle se retrouve sur une mission où elle demande à Garrison de l'aider, mais il refuse, pour libérer des prisonniers d'une grosse prison. Et on se retrouve avec toutes ces intrigues parallèles, qui ont apparemment aucun lien entre elles, et qui finissent par se rejoindre autour, apparemment, du roi Vanir, qui est un roi qui a une tête de méchant, mais on n'arrivera jamais vraiment à savoir s'il est totalement méchant ou pas.
Pourquoi est-ce qu'on n'arrivera pas à savoir s'il est totalement méchant ?
Battle Chaser a eu une telle régularité de merde. Il faut voir que le tome 1, qui était paru chez Semic, a un dépôt légal de 99.
C'est bien.
Le tome 5, qui est le dernier tome paru, a un dépôt légal en 2002.
Attends, 3 ans, 36 mois, 5 tomes. Ah ouais, c'est une vraie...
Pour une série à la base bimestrielle, c'est assez... ridicule. En 3 ans, il y a eu 5 tomes du bimestriel. Ils sont un peu foirés quelque part. Alors, on va pas en vouloir aux traducteurs chez Semic, qui ont fait ce qu'ils ont pu. En plus, il y a eu des gros changements là-dessus. Ça a commencé, c'est chez Image, chez Wildstorm. C'était Wildstorm qui gérait le label Cliffhanger. Wildstorm, c'est le label de Jim Lee. Sauf que Jim Lee, en ayant marre d'avoir à s'occuper de la paperasse, refourgue le label Wildstorm à DC Comics. Donc au bout de quelques tomes, ça devient du DC Comics Wildstorm. Sauf que apparemment, il décide que Cliffhanger n'a rien à faire chez Wildstorm, et les derniers tomes sortent chez Image Comics. Du gros n'importe quoi dans tous les sens. Alors en plus avec le logo Image qui change en cours de route, parce que Rob Liefeld, qui avait créé le logo Image, était en froid avec les créateurs d'Image et avait décidé qu'il voulait pas qu'il l'utilise, ça part dans du grand n'importe quoi. Le scénario est assez classique, d'ailleurs, c'est le mot que j'ai utilisé pour le définir. Qu'est-ce que tu utilisais pour définir Battle Chaser, mon ami Thio ?
Le même.
Le même. Donc,
tout ce qu'il y a de plus classique, quoi.
Sauf qu'au niveau des intrigues, c'est très bien géré, ils arrivent à nous surprendre, ils arrivent à nous prendre dans une ambiance, dans un univers dont on a envie d'en savoir plus. Mais c'est un scénario qui n'est pas achevé, car il n'y a eu que 9 numéros. Le 10e numéro est en cours et à peu près commencé à dessiner, ce que je comprends, et on peut le trouver dans une superbe anthologie qui est sortie aux États-Unis et qu'on peut trouver pour assez cher, malheureusement, qui contient les dessins non colorisés de Battle Chaser. L'éditeur français a fait ce qu'il a pu pour remplir le magazine. C'est-à-dire que sur chaque tome, parfois, il mettait des spin-offs, des numéros 0. Alors, le numéro 0 était trouvable avec un comic box.
Avec un Gen 13.
Dis une connerie, tu vois.
Le tome 27 de Gen 13.
Voilà. Il y a eu d'autres numéros qui avaient dû paraître dans des magazines aux États-Unis qui ont été traduits dans certains dessinés par Adam Warren. Adam Warren, qui avait pas mal bossé sur du Gen 13 d'ailleurs, et qui avait aussi travaillé sur Dirty Pair, l'adaptation américaine de Dan et Danny. Je sais pas si tu te souviens de ce dessin animé.
Pas du tout.
Il était dans le sujet parce que Dirty Pair, c'était un jeu de mots sur la paire sale, la paire. Voilà. La paire. Enfin, le dessin. J'ai décidé que c'était du dessin volumique.
Splendide.
Les dessins sont superbes. Joe Madureira a un talent. Il a réussi à récupérer des influences manga, comics et aussi européennes derrière pour faire des trucs avec des formes un peu démesurées, genre les gants d'Aramus étant très très grands. Ça lui fait des mains gigantesques à Gulli, mais c'est génial. C'est super dynamique, les couleurs sont magnifiques. C'est un petit bijou graphique. Moi, j'adore. Madureira a fini par se casser, en fait, a arrêté la série parce qu'il a trouvé plus lucratif d'aller travailler dans le jeu vidéo, dont le jeu Dark Souls, si je me souviens bien, qui est une suite d'ailleurs, Dark Souls 2, qui est sorti il y a peu. Ça lui a rapporté certes beaucoup plus d'argent, mais on ne l'a plus beaucoup revu dans la bande dessinée. Il est revenu pour faire...
Il va y revenir pour faire des Ultimates.
Il est revenu pour y faire un Ultimates par Jeff Lubbs, qui était moyen.
Et il va revenir définitivement avec Jeff Lubb pour faire que des Ultimates.
J'espère qu'il va y rester. Et puis peut-être qu'il nous fera un jour la suite. Parce que alors, le numéro 9 se finit par un cliffhanger horrible.
On peut le dire comme ça.
Voilà. Et j'espère bien... C'est Darksiders, pardon, le jeu sur lequel il a bossé. Pas Dark Souls. Je dis une connerie. Et donc, il nous a fait un truc un peu... apparemment, il aimerait bien faire la suite parce qu'il a quand même écrit. Alors, il s'est fait aider pour les premiers numéros. Il a été aidé par Munir Sharif qui a co-scénarisé avec lui. Je pense que c'était pour le conforter aussi un peu en tant que dessinateur sur ses capacités à construire un univers. Et beaucoup de dessinateurs ont commencé commencé, enfin, qui ont lancé leur propre série ont commencé comme ça à se faire aider. Mais il a continué un peu tout seul. Un superbe artiste qui, malheureusement, ne finit pas ce qu'il commence et j'aimerais bien qu'il aille au bout.
Surtout que je pense que ça pourrait être un bon truc de, si le termine, en faire une intégrale.
Oui, mais il faudrait qu'il arrive à le terminer. Mais c'est une histoire, il y avait tellement de sous-intrigues, de petits mystères dans tous les sens.
Enfin, oui, mais il manque combien de magazines ? Il en manque quoi ? 5 ?
Par exemple, Nolan, tous les mystères autour de Nolan, t'as que dalle, quoi. T'as juste des indices qui te donnent des bouts de départ d'intrigue.
Mais à l'époque, il travaillait pas avec Ben Bendis. Il n'y avait pas un truc avec Bendis, non, je pense ?
Non.
Non, pourtant, c'est pareil, regarde, il y a plein de pistes, et finalement, t'as la réponse sur aucune. C'est du Bendis, en fait.
C'est plus Millar, ça.
Millar, pardon, oui, ouais. Excuse-moi. Excuse-moi, autant pour moi. Non, c'est du Millar. C'est ça, ouais. En fait, il n'a pas la fin du scénar.
Ouais. Non, Bendis, lui, il a le début, il a la fin, ça pourrait tenir en 15 pages, mais il te fait 50 tomes. C'est plus ça. Mec de dialogue sympa. Donc Battle Chaser, si vous arrivez à le trouver d'occasion ou quoi que ce soit, ça peut se faire, c'est pas forcément évident. Ça reste très agréable. Cherchez les dessins sur internet, on mettra quelques liens sur ce que je peux trouver à côté. Enfin, c'est
déjà sur le fan art qu'on a.
Ouais.
Bah, il y a Red Monica.
Oui, il y a Red Monica. D'ailleurs, je dédie cette chronique à The Bully. C'est lui qui m'a fait repenser à Battle Chasers et qui m'a poussé à les relire. Est-ce que tu rajouterais quelque chose, toi qui as découvert cette série, tu la connaissais pas du tout, tu viens de la découvrir en fait?
Ben, je me suis régalé. Déjà ouais, c'est clair, parce que le dessin c'est péchu, c'est dynamique. Alors c'est vrai que c'est disproportionné à des moments, mais ça se lit facilement. C'est
oui, et puis le côté disproportionné, c'est un côté presque drôle, c'est de l'humour, ouais. C'est pour déconner, ça se prend pas au sérieux aussi.
Ça se prend pas au sérieux, mais dans tous les sens, ça se prend pas au sérieux. Et pour autant, il y a plein d'intrigues, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais on n'a pas de fin. C'est le seul regret, voilà. Ce qui est dommage.
C'est fini pour cette première splash page. J'espère que vous aurez apprécié. Nous essaierons de refaire donc à chaque épisode une chronique un peu plus poussée sur une BD dont on va parler.
Online.
Nous allons parler de Bulle Critique. Bulle Critique nous permet d'avoir les avis de Caïs. Ça s'écrit comme Caïd mais avec un S, tu vois.
Caïs, quoi.
Voilà. Et Caïs qui nous parle des BD qu'il a aimé, quoi. Qu'il a kiffé même.
Qu'il a kiffé, ouais.
Voilà. Et c'est drôle. En gros, on se retrouve avec des chroniques, par une sorte de Kaira de banlieue bourgeoise. C'est l'impression qu'il donne. qui va te décrire comme c'est trop bien la bande dessinée, et ce qu'il a aimé, et ce qu'il en a pensé, avec beaucoup de mauvaise foi.
Beaucoup d'humour aussi.
Beaucoup d'humour.
Beaucoup d'ironie.
Et des critères de critique très très appuyés sur faut qu'il y ait du sang, de la baston et des nibards.
Pas toujours, non, je dirais que c'est des critères assez personnels. C'est...
Par exemple, en Feust, c'est la meilleure BD du monde.
Ouais.
Lupus, c'est nul.
Et 3 secondes aussi, il a pas
aimé. Ouais, beaucoup... il a pas aimé. Ouais, attends, ça fait travailler le Chiro, quoi. C'est nawak.
Non, et puis de la BD qui bouge pas.
Ouais.
Comme si c'était une nouveauté.
Ouais, la BD, ça bouge pas jamais.
Ça bouge jamais, la BD.
J'ai trouvé ça, mais super drôle. Au début, on se posait la question à savoir si c'est du premier ou du second degré. Je pense que c'est du 40e degré. Je pense que le gars en profite pour dire un peu aussi ce qu'il pense vraiment, mais en ne sortant que les côtés les plus putassiers de la bande dessinée qu'il est en train de lire. Donc je vous recommande grandement cette petite BD. Le dessin est tout mignon, tout rigolo, c'est très simple. C'est pas très très régulier, mais ça mériterait de l'être plus, parce que je rigole beaucoup à chaque fois. Ça t'a plu ?
Oui, non, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rire. Maintenant, il y en a pas des masses quand même.
Oui, il y en a pas beaucoup encore.
C'est
récent, hein, c'est pas sorti il y a très longtemps. Nous allons pouvoir conclure en vous remerciant de votre écoute, en remerciant Thibaut qui nous a fait des critiques constructives et non trop lentes, qui vont nous aider à avancer, qui vont nous aider à un peu améliorer notre émission. Alors là, on est en rodage de la nouvelle formule. Alors on était en rodage de l'ancienne déjà depuis 40 et quelques numéros. Là, on prend le rodage de la nouvelle formule, donc c'est peut-être encore pire que ce que c'était avant, on espère que non.
Bien mais sûr, promis, on essaie de progresser quand même.
Voilà, si franchement ça vous a plu, alors on continue. Oh mon dieu, je crois qu'on va se quitter là. N'oubliez pas d'aller voter sur iTunes, sur Facebook.
N'oubliez pas de continuer à suivre Le Pied sur Twitter.
Oui, on a Les Pieds. Tous les liens sont disponibles sur le site. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve dans 15 jours avec un programme exceptionnel.
Yeah. Tu m'as dit de manger le micro.
Bonjour. Putain, j'ai Frédéric Mitterrand à côté, c'est pas possible.
Sinon, on peut faire ça aussi. On peut faire...
Ça fait un peu plus. C'est plus dans les scènes d'action. Je crois du Manara, peut-être. Donc, on fait pas trop souvent non plus. Hein.